les podcasts d'AFDS.TV, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.TV, Sarah Sepulcre, Alexandre Marlier.
La traduction de Soprano se dit Kingpin en espagnol. C'est ainsi que Nancy Franklin commence son article sur la mini-série de NBC dans les pages du New Yorker. Autant dire qu'il est difficile aujourd'hui de faire une série sur une famille mafieuse. Mais Kingpin n'a pas eu que cet obstacle à franchir. Comment dépeindre la vie de gangster, par définition en marge des bonnes mœurs, c'est violent, sur une chaîne généraliste américaine. Échappe-t-on aux clichés quand on brosse le portrait de Mexicain ? Avant même sa diffusion, Kingpin était au cœur des débats, Sarah.
Effectivement, elle sera au cœur des nôtres en tout cas. Kingpin, puisqu'on en est aux traductions, signifie cheville ouvrière d'une organisation ou d'une entreprise. Et s'ils se définissent effectivement comme des hommes d'affaires, en tout cas c'est ce que Miguel rappelle à Ernesto, son cousin, durant le pilote, l'entreprise dans laquelle ils travaillent est plutôt hors norme puisqu'ils sont des trafiquants de drogue. Ils font partie d'un cartel, en d'autres mots. En plus, ce cartel est dans une situation assez difficile au début de la série puisque l'organisation n'a plus de patron. Il a dû fuir dans les eaux internationales pour échapper à plusieurs mandats d'arrêt. En guise de vengeance, il déclare la guerre au gouvernement en mettant la tête des agents fédéraux américains à prix, ce qui attire forcément l'attention sur eux. Et en plus de ça, Ernesto, son fils qui a repris les rênes, a un comportement assez exubérant qui ne fait que renforcer cette surveillance. Donc, pour mettre le cartel un peu en sécurité, Miguel décide de les faire assassiner. C'est une décision pas évidente à prendre quand on fait partie de la mafia, d'autant qu'on n'est pas sûr que ça soit non plus une solution, puisque maintenant il s'agit de trouver un successeur à Tio Corge. Tio, ça veut dire oncle en espagnol, et plusieurs candidats se pressent au portillon, évidemment, et Miguel, qui n'a pas de lien de filiation directe, puisqu'il n'est pas le fils, se trouve affaibli, et que finalement on voit que cette guerre qui se met en place au sein du cartel va le mettre encore plus en danger, peut-être, ou en tout cas autant en danger que si le patron de départ était resté là. Beaucoup ont souligné le fait que Marlene, la femme de Miguel, était plus ambitieuse que lui et que lui ne voulait pas vraiment son boulot à la tête du cartel, mais que c'était elle qui le voulait. À mon avis, c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où s'il la veut pas à tout prix, s'il est d'accord d'être patient, il a quand même envie de cette place. Et quand on le voit, par exemple, sa manière de se vendre à ses oncles, sa manière d'intriguer, puis de s'imposer finalement dans le dernier épisode à son oncle, et puis il n'a plus rien à dire, point final, on se rend compte qu'effectivement, il la veut, cette place de patron. Et donc selon moi, cette mini-série, le thème principal, c'est bien cette succession, et c'est bien plus que les violences, que la drogue, etc. Alors beaucoup ont aussi prétendu que la conscience de Miguel était tiraillée, qu'il sera une espèce d'ange, un businessman clean, qui s'efforce d'oublier ce qu'il vend et les moyens qu'il utilise. Par exemple, ses costumes impeccables et son visage tout à fait lisse en seraient le signe. On le suivrait donc dans sa descente aux enfers, puisqu'il est de plus en plus obligé de faire face à ce côté sombre de l'entreprise qu'il dirige. Et là, évidemment, le parallèle avec Tony Soprano était prévisible. Il me semble, moi, qu'on est plutôt face à quelque chose d'autre, puisque Miguel n'a jamais rechigné au sale boulot. Au début, il ne le fait pas, mais c'est tout simplement parce qu'il est conseiller et qu'il n'est pas un homme de main. Et puis quand il décide de se mettre candidat, alors ça veut dire qu'il doit prendre ce boulot en main aussi. Et il le fait directement, puisqu'il drogue le général, par exemple, il fait alliance avec d'autres cartels, il se venge quand il a été trahi, il fait assassiner des témoins gênants, il menace le chef de la police, donc le sale boulot, il le fait. Et en fait, il l'avait déjà fait avant, puisqu'on apprend dans un flashback au quatrième épisode qu'il a commencé au bas de l'échelle, comme tout le monde, à creuser les tombes des types qu'il était censé tuer ensuite. Donc Miguel a les mains sales dès le départ.
Le seul moment où on a l'impression qu'il regrette un peu sa position de mafieux, c'est justement quand il passe certains moments avec son fils et qu'il se dit que son fils va devoir lui aussi prendre la succession.
Effectivement. Et c'est justement ce qui apporte l'ambiguïté dans Miguel, c'est qu'il veut protéger sa famille. Et là, effectivement, on trouve un lien tout à fait direct avec Tony Soprano aussi, qui cache d'abord à ses enfants ce qu'il fait. Et effectivement, plus il aura de responsabilités, Miguel, plus il faudra que sa famille soit mise en danger quelque part, puisqu'il peut y avoir des coups d'État au sein de cette famille, par exemple.
Et l'autre problème de Miguel aussi dans cette histoire, c'est qu'il a épousé une femme américaine et pas une mexicaine.
Effectivement, donc ça je disais tout à l'heure, il est très affaibli, donc il doit sans cesse faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait dans cette famille. Et en plus de ça, et tu le disais, il a envie de la protéger, cette famille. Marlene, tu en parlais tout à l'heure, non seulement elle l'affaiblit parce qu'elle n'est pas mexicaine, mais elle le renforce aussi quelque part, dans le sens où elle est avocate. avocate et qu'elle travaille pour l'organisation, pour le cartel.
C'est d'ailleurs parfois la seule chose qui la sauve.
Oui, et je pense que aussi c'est quelqu'un qui est beaucoup plus qu'une femme pour Miguel, dans le sens où à un moment elle est en cours de désintoxication et lors d'une consultation elle dit que Miguel est la seule personne en qui elle a confiance et que c'est tout à fait réciproque. Et effectivement, il me semble qu'à un moment, Marlène devient un espèce de second. Elle est en tout cas aussi importante que Chato, le frère de Miguel. Elle est là quand il faut prendre des décisions importantes. Elle est là quand il faut prendre des décisions de tuer quelqu'un, par exemple. Tu me disais, effectivement, celui qui apparaît donc un peu comme l'innocence à protéger et quelque part le côté un peu que Miguel n'aime pas, c'est Joey. Et c'est un paradoxe, comme tu le disais, parce que si Miguel devient le boss, d'office, son fils sera l'héritier. Il sera en première place, en tout cas. Et il n'est pas inintéressant de voir que, justement, Miguel se débat dans tous ses ennuis pendant toute la série, par rapport à la succession, mais aussi par rapport aux flics, par rapport aux fédéraux, etc. Et il y a un moment où Miguel s'en sort. Et c'est mis en parallèle, dans la série en tout cas, avec un moment où Joey va en confession et où il dit au curé que son papa a des ennuis. C'est donc une manière quelque part de prendre conscience, de dire « j'ai compris qui tu étais ». C'est symbolique effectivement. Et puis c'est un moment aussi où il décide de prier pour lui. Et donc c'est comme si, à partir du moment où son fils comprend qui il est, mais l'appuie, parce que s'il prie pour lui, c'est qu'il veut l'aider, et bien à ce moment-là, Miguel peut réussir parce qu'il a un successeur. Et donc vous voyez que toute cette thématique de succession est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est le thème principal, bien plus que les violences, bien plus que la drogue, c'est la succession qui fait cette mini-série.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Forgive me, Father, for I have sinned. It's been 10 days since my last confession, and these are my sins. I pushed my cousin, and she fell and bumped her head.
Why did you push her?
She was being annoying. She's only 6 years old.
Go on.
I drank from the chalice in my church.
What?
In the sacristy. I'm an altar boy.
My son, to violate the sanctity of the Holy Communion is very serious.
I know. That's why I'm confessing.
Go on.
Father, can I confess for things that my father did?
No. We can only confess our own sins. What things did your father do?
I don't know, but I think he's in trouble.
Well, we can pray for those in our lives. Don't ever underestimate the power of prayer if it comes from the heart. Was there anything else?
No.
Your penance is 10 Hail Marys and 5 Our Fathers.
Kingpin a été maintes fois comparé au Soprano.
Oui, et il y a même une journaliste américaine qui dit que c'est pas étonnant et que d'ailleurs, c'est Nancy Franklin dont on parlait tout à l'heure. Finalement, tant mieux pour eux parce que Kingpin ne pourrait pas exister sans les Sopranos. Et c'est vrai que ce sont les Sopranos qui ont ouvert la porte à toutes ces séries violentes sur la mafia, etc. D'un autre côté, il faut savoir que les networks américains ont enragé de voir les bénéfices qu'ont engendré les Sopranos, mais qu'effectivement, pour une chaîne généraliste aux États-Unis, le problème principal, ce sont finalement pas tant les scènes de sexe et les gros mots que le fait qu'ils font fuir les publicistes. Donc il est impossible pour NBC de mettre en place quelque chose comme ça. Certains mots sont possibles sur HBO, mais ne sont absolument pas possibles sur NBC, et c'est d'ailleurs pas dans Kingpin qu'on entendra tous les motherfuckers qu'on entend dans les Sopranos. C'est pas non plus dans Kingpin qu'on va voir un personnage dépecer un cadavre dans l'arrière-salle d'une boucherie, alors que ça arrive dans les Sopranos et plus d'une fois. Donc ça, c'est une première différence, elle est de taille. David Mills, qui est le créateur, a dit que l'important, de toute façon, c'était pas ça, c'était le fait qu'il avait voulu faire une série de qualité. David Mills, pour la petite histoire, c'est quand même le gars qui a travaillé sur Homicide, sur Urgence, sur New York Police d'État et The Corner pour HBO, donc il vient pas de n'importe où non plus. Mais justement, cet argument de la qualité, c'est celui que choisit une autre journaliste, Gloria Goodale, pour dire que selon elle, Kingpin c'est très bien, mais c'est pas aussi bien que les Sopranos. Et effectivement, j'ai l'impression que Kingpin n'arrive pas à la cheville des Sopranos, pour plein de raisons. D'abord la construction des personnages, qui sont moins fouillés, l'intérêt des intrigues, leur équilibre. On sent par exemple parfois que certaines histoires ne sont pas autant développées. Je pense à celle de Delia Flores, qui est l'agent des stupes, et qui apparaît de temps en temps, mais on se demande ce qu'elle vient faire là-dedans.
Il y a un petit goût de trop peu dans l'histoire.
Il y a un carrément gros de trop peu, si tu veux mon avis. On peut aussi dire que Kingpin n'a pas eu assez de temps. On a cette impression qu'en tout cas, en 6 épisodes seulement, ça oblige les scénaristes à y aller à la grosse louche et que c'est un peu dommage. Mais comme il est impossible de regarder Kingpin sans faire le parallèle aux Sopranos, la chaîne a dû être consciente de ça très très tôt et a tenté de diriger les esprits du public et des critiques sur autre chose. On a pu ainsi lire une interview de Jeff Zucker, le président des divertissements de NBC, qui décrivait Kingpin plus proche de Shakespeare que de Tony Soprano, et donc Miguel est une figure un peu à la Hamlet, si tu veux. Une comparaison qui a dû être assez bien travaillée par les attachés de presse, puisque le créateur lui-même revient là-dessus et qu'il explique que, plus qu'une fable sur la mafia, sur la drogue, etc., Kingpin est une fable sur les intrigues pour le pouvoir, ce que je rejoins tout à fait. Mais une fable qui aurait pu tout aussi bien se dérouler dans la Rome antique, par exemple, qu'au sein de la mafia. Effectivement, j'ai dit, c'est ce qui me paraît important, mais alors on peut se demander pourquoi ils ont choisi la mafia, alors que tout le monde allait directement faire le lien avec les Sopranos et que la bataille était perdue d'avance. Personnellement, pourquoi ne pas le mettre dans la Rome antique direct, quoi? C'est donc en tout cas moins bon que les Sopranos, mais d'un autre côté, qui peut être meilleur que les Sopranos, ça c'est une chose. Et puis deuxièmement, il y a quand même une impossibilité certaine de NBC de faire les Sopranos, alors qu'elle ne peut pas montrer des meurtres de manière aussi violente, qu'elle ne peut pas montrer des gens qu'on dépèce, qu'elle ne peut pas non plus dire motherfucker tout le temps.
On peut peut-être rappeler justement que HBO qui produit et qui diffuse les Sopranos est une chaîne à payage, donc la plupart du temps cryptée, et que sur ce genre de chaîne, comme chez nous, des œuvres un peu plus violentes peuvent être plus facilement développées.
Effectivement, et pas sur NBC.
Qui elle est une chaîne généraliste.
Ouais. I know you're a busy man. I won't waste your time.
What can I do for you, Chief Lazzareno?
You can offer me a drink? I didn't become El Jefe by being deaf, dumb, and blind. For example, I know that your brother, Chato, has been visiting my wife in the bedroom. And I know that this will stop. Either you will stop it, or I will stop it. Nos comprendemos.
I'm not sure we do. Why don't you tell me what you mean?
You tell Chato to leave Ariela alone, or I cannot guarantee his safety.
If you have a problem with your wife, Chief, straighten it out with her. I can see you're drunk, so I'm ignoring that threat you made to my brother. Just walk out now.
Des Mexicains en tête d'affiche d'une série de prime time, c'est quand même pas la panacée.
Ah non, c'est même carrément le truc intéressant avec Kingpin, c'est que c'est la première série de prime time à mettre en scène une famille latino-américaine sur un network, parce qu'évidemment, le câble avait déjà fait ce pas-là. Une grande partie des dialogues est en espagnol même, dont certaines grandes parties ne sont pas traduites. Un signe, selon les journalistes qui ont analysé cette série aux États-Unis, que les networks sont maintenant conscients que les hispano-américains sont aujourd'hui la minorité la plus importante du pays. Mais justement, la vice-présidente du Conseil national des hispano-américains à Washington s'est un peu inquiétée du fait que justement cette série ne montrait que des criminels ou des personnages corrompus et qui avec un seul personnage positif, elle dit pas lequel mais je suppose que c'est Delia, et c'est problématique selon elle parce que la série est centrée sur les hispano-américains mais qu'elle est la seule et que donc c'est la seule vision des hispano-américains qu'elle peut donner et qu'il n'y a pas de contre-discours. Alors à ça, David Mills a répondu qu'il en avait ras-le-bol, que quand on faisait une histoire sur des Sopranos ou sur des gens blancs qui sont mauvais, c'était universel, mais que dès que ces gens mauvais étaient des Mexicains, alors ça voulait dire des choses sur les Mexicains.
Mais la communauté italienne a aussi un peu houspillé les Sopranos.
Oui, mais après ils ont dû bien aimer à mon avis, hein, avec les rentrées publicitaires que ça a fait. Donc en gros, Miss dit, moi j'ai pas voulu faire une histoire de Mexicain, j'ai voulu faire une histoire universelle, qui parle de sentiments universels. Et d'ailleurs, Tim Goodman, qui est un chroniqueur du San Francisco Chronicles, a dit, moi aussi j'en ai ras le bol qu'on ait ce systématisme, si on parle de Mexicain, faut qu'on soit politiquement correct. Et c'est pas tout à fait faux, moi je noterais simplement qu'aucun des acteurs de la série, qui sont pourtant tous des hispano-américains, n'a paru totalement outré par ce qu'on y disait, et que probablement les téléspectateurs, comme les journalistes, comme les scénaristes, comme les acteurs, sont capables de prendre une fiction pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une fiction. Maintenant, c'est vrai qu'on a peut-être un peu moins de problèmes de minorité ici en Europe, et qu'on voit les choses de manière un peu plus distante. Bref, malgré le fait que ça soit mexicain, ou plutôt mexicain ou non, que pouvons-nous penser de cette série? Alors, Tim Goodman, le gars que je viens de citer, le journaliste, trouve que Kingpin, et lui il est assez sévère, attention, hein, est plate, lente, que le jeu des acteurs n'est pas inspirant et que l'écriture est prévisible. Je vous avais dit, hein, il est un peu...
C'est hard quand même comme critique.
Un peu hard. Selon lui, le seul point positif qu'il retire de la série, c'est Yancy Yaras, qui est la star du programme, parce qu'apparemment, il a été carrément bluffé par son jeu. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il n'était pas du tout prévu, même dans les auditions, que c'est un autre acteur qui a passé l'audition, qui a donné son nom. C'est vous dire que les listes d'acteurs hispano-américains dont disposent les networks ne sont pas très très longues. Et pour une autre petite histoire, c'est un acteur de série de telenovela mexicaine qui aurait dû reprendre le rôle, mais son anglais n'était pas assez bon, donc ils ont préféré prendre Yancy Yaras, qui effectivement est très très bon. Personnellement, je ne vais pas aussi loin que ce journaliste. Je ne descends pas totalement la série. Je lui trouve même des choses très intéressantes. Mais je lui reproche surtout une chose, c'est d'être inégal. Que certaines intrigues ressemblent plutôt à des joujoux qu'à autre chose. Et je vous ai déjà parlé de Delia Forest, mais c'est aussi le cas de Woody Klein, qui est pourtant joué par Brian Benben, le gars de Dream On. C'est quand même une pointure aussi. C'est donc le chirurgien esthétique qui a un peu dealer... pour avoir de l'argent, pour pouvoir jouer, en gros.
On se demande parfois ce qu'il fait là, quoi.
Carrément.
Sa présence, c'est pas du tout nécessaire, si ce n'est à un moment crucial de la série.
Et la présence de Delia non plus, les intrigues ne se rejoignent pas tout à fait, à part par un moyen qui peut paraître un peu limite. Donc on se demande vraiment ce qu'ils foutent là. Il me semble aussi, ça j'ai déjà dit, que la série a apparemment manqué de temps et que donc elle lance des choses qu'elle ne développe pas. On a par exemple un second épisode très intéressant qui nous montre les prétendants possibles au pouvoir au sein du cartel. On a notamment Lupita, qui est la fille de celui qui vient d'être assassiné et qui est donc logiquement en filiation directe, et son mari pourrait être le premier prétendant. Pourtant après, on les oublie. Elle revient une fois ou deux pour ajouter 2-3 gris-gris parce qu'elle est adepte du vaudou. Mais à part ça, le rôle, on la voit plus jamais. C'est pareil pour Beto, celui qui reprend l'intérim pendant 6 mois en attendant de choisir entre les prétendants. Il arrive pour dire qu'il va choisir et qu'il reprend le rôle de patron, mais on ne le revoit jamais jouer ce rôle de patron. Au contraire, c'est Miguel qui semble avoir ce rôle. On peut donc se demander pourquoi. Ils font comme s'il va y avoir une lutte de pouvoir, mais elle n'arrive pas.
Un côté relativement brouillon, donc.
Totalement. Et puis, on a des choses, par exemple, bizarroïdes. Donc Marlène part en cure de désintox parce qu'elle est shootée à la cocaïne, mais elle en sort aussi vite qu'elle y est rentrée. Et finalement, c'est vrai que ça nous permet d'avoir ses sentiments par rapport au couple, mais à part ça, on ne voit pas très bien à quoi ça sert, ce truc. Puis, il y a des choses très faciles, du style le docteur Klein dont on parlait, qui se lie très vite avec des truands alors qu'il n'a jamais travaillé avec des gens, qui préfère travailler seul. Puis on ne sait pas pourquoi son appartement a été visité, puisqu'il rentre un jour, il est sans dessus-dessous. On ne sait pas par qui. Est-ce que c'est par le FBI, ce qui permettrait alors de faire un lien avec la famille, ou est-ce que c'est par les gars qui vont lui voler sa cocaïne après? Enfin bref, il y a des choses lancées dans tous les sens et on ne sait pas très bien ce qu'on en fait. Ça paraît pas tout à fait abouti non plus. Alors il faut savoir qu'une version moins prude, c'est-à-dire plus de langage cru, plus de sexe, qui a été programmée sur Bravo, une chaîne du câble, et qu'il y a une version totalement en espagnol qui a été diffusée sur Telemundo, une chaîne du groupe NBC, elle aussi sur le câble. Et certains ont dit que la mini-série pourrait déboucher sur une série régulière si le succès est au rendez-vous. Je ne sais pas si ça s'est fait. Mais en tout cas, ça pourrait donc démontrer que quelque part, cette mini-série ne tient pas en elle-même, qu'elle n'est qu'une espèce de résumé de quelque chose qu'on passe ailleurs, de plus cru, de plus violent, ou qu'elle pourrait être une vitrine de choses possibles si on avait les budgets et l'accord de la chaîne pour faire une longue série. Mais dans ce cas-là, effectivement, moi je me demande pourquoi n'ont-ils pas fait directement une série longue. Or évidemment, j'ai un essai de réponse à ça. C'est que NBC avait probablement très très peur de mettre en scène cette série, qui notamment met en scène des personnages mexicains, mais qui en plus pouvait être relativement choquante pour ses annonceurs. Moi, je dirais simplement que c'est peut-être parce que HBO n'a pas peur qu'elle engrange les bénéfices.
Et c'est là-dessus qu'on va clôturer.
Et ce sera là-dessus que je clôture ce dossier. Je vous laisse regarder Kingpin par vous-même.
Sarah, merci beaucoup.
Il n'y a pas de quoi.
À bientôt.
Retrouvez aux frontières des séries sur le web. www.afds.tv.